Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet audio consacré au second thème de notre cycle lunaire sur la manifestation. Et pour ce second thème, j'ai décidé de travailler sur la symbolique des mains, comme je vous l'avais annoncé précédemment. Alors pour moi, les mains sont associées véritablement avec la créativité, mais pas seulement la créativité artistique, de la peinture, de la musique ou de la danse même, mais la créativité, la manifestation également dans notre vie, même plutôt la manifestation de notre vie, c'est-à-dire les choix que l'on fait, les actions que l'on fait, nos comportements. En fait, je vais partir du principe que oui, les mains symbolisent la créativité. Par exemple, on dit bien de prendre notre vie en main pour faire changer les choses, pour faire d'autres choix et pour mener sa vie d'une façon plus souveraine. Alors pour exploiter ce thème, pour l'explorer, je vais vous parler de quelques contes, des contes qui ne sont pas de Jamie Sams, mais des contes que vous pouvez retrouver notamment dans le livre culte de Clara Pinkola Estes, qui est du coup les femmes qui courent avec les loups, femmes qui courent avec les loups. Et pour commencer, forcément, le conte La jeune fille sans main. C'est un des derniers contes du livre. Pour Clara Pinkola Estes, il s'agit surtout d'un conte qui nous amène à comprendre le principe de résilience, le principe de force que la femme doit développer pour vivre tout simplement, pour avoir une vie plus riche de sens. Et par cela, pour l'auteur, il s'agit de faire des apprentissages successifs dans le monde de l'inconscient. Alors, le conte de la jeune fille sans main est un conte particulièrement long avec plusieurs successions. Je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez lire le conte. Ici, je vais le résumer d'une façon très très légère. Alors, il s'agit d'une jeune femme qui habite avec ses parents et son père est meunier. Et les affaires ne vont pas très bien. Et le diable se pointe et propose au père meunier qu'en échange de ce qu'il y a derrière sa maison, eh bien, le luxe, la richesse, l'abondance. Et le meunier, forcément, vu que les affaires ne vont pas fort et que derrière la maison il n'y a rien d'autre qu'un vieux pommier, il décide d'accepter le marché du diable. En rentrant, tout fier, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas vendu le pommier, mais il a vendu sa fille, qui était en train de passer le balai derrière sa maison. Bien entendu, le marché est conclu, mais le diable ne va pas venir tout de suite chercher la jeune fille, il va attendre 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, il va essayer de la chercher, mais il ne va pas réussir. La première fois, c'est parce que la jeune fille est trop propre. La deuxième fois, c'est parce que elle a pleuré. Et la troisième fois, eh bien, malgré tout, il ne va pas pouvoir la prendre et il va demander que son père lui coupe, l'ampute de ses mains. Ou alors, il le menaçait en fait de tuer tout le monde. Le père, forcément, va accepter, va couper les mains de la fille, mais celle-ci va tellement pleurer également que malgré le fait qu'elle n'ait plus de main, eh bien elle ne pourra pas être emportée par le diable. Par contre, les parents obtiennent la richesse tant attendue, mais la jeune fille décide de ne pas rester avec un père qui l'a amputée, on la comprend, et de partir voir ailleurs. Et là où elle est, eh bien, c'est un monde qui ressemble au monde de l'inconscient, qui est un monde souterrain où un esprit blanc la guide. Alors, il faut imaginer à quel point elle est vulnérable. La guide dans les jardins du roi, où elle va pouvoir se nourrir plusieurs fois, plusieurs nuits, jusqu'à ce que le jardinier se rende compte qu'il manque des poires et que le roi cherche à espionner pour voir qui mange les fruits de son jardin. Et quand il va la voir en pleine nuit, il va tomber amoureux, il va l'épouser. C'est un mariage heureux. Le roi va même construire des mains de fer pour aider face au handicap de son épouse et ils vont bientôt avoir un enfant. Mais alors qu'elle est enceinte, le roi est très vite appelé, eh bien, en dehors de sa contrée, et il va la laisser avec sa belle-mère. Et l'enfant naît, c'est un fils. Et là, le diable se pointe à nouveau. Parce que pour envoyer le message de la naissance de son enfant au roi, le diable va changer les écrits et va dire, transmettre le message comme quoi la reine a accouché d'un monstre. Et le roi, avec sa bonté de cœur et son amour absolument incroyable, va répondre que ce n'est pas grave, qu'il l'aime. Alors le diable est fâché, il va encore changer le message et le transformer en tuer la reine et tuer l'enfant. La belle-mère reçoit ce message, ne comprend pas, ou plutôt justement comprend tout. Elle comprend comment s'adresser au diable, comment jouer avec lui. Et en fait, elle choisit d'emmener à nouveau sa belle-fille dans l'errance souterraine en lui accrochant son enfant au sein et en étant sûre en fait de la laisser en sécurité, de la protéger ainsi. Et la jeune fille va marcher dans la forêt souterraine jusqu'à tomber sur une auberge où elle restera pendant 7 années, où elle va subir une nouvelle initiation. Une auberge qui est dirigée par une figure de la femme sage. Et pendant ces longues années, le mari de la reine, le roi, va revenir et va trouver la place de son épouse vide. Il va partir à son tour à sa recherche. C'est une errance également qui va durer 7 ans. Et petit à petit, pendant tout ce temps, pendant cette initiation, la reine va retrouver progressivement ses mains. Elles vont repousser de véritables mains, des mains de chair. Et lorsque le roi va finalement la retrouver, eh bien, il ne va pas la reconnaître parce que elle a des mains. Et elle va montrer les mains de fer qu'il lui avait fabriquées il y a longtemps pour qu'enfin il la reconnaisse, elle et son fils, et tout finit bien. Donc c'est une histoire particulièrement longue, et pour Clara Pinkola Estes, qui est donc psychanalyste du courant de Carl Gustav Jung, donc une psychanalyste jungienne, l'interprétation de ce conte est typique en fait de chaque acteur qui représente une part de notre psyché. Par exemple, le bon roi, ça va être notre animus positif. Le père qui va faire le marché horrible va être un animus négatif. Donc elle va passer d'un animus négatif à un animus positif, donc la partie masculine que l'on a en soi. Et le diable, ça va être forcément tous nos doutes, toutes nos faibles estimes de nous-mêmes, par exemple. Et la femme qui est sage à la fin du conte, ainsi que la belle-mère du roi, vont incarner en fait notre instinct sauvage. Pour l'auteur, il s'agit d'un conte, comme je le disais, qui est sur l'apprentissage de la résistance, de l'endurance, mais aussi eh bien, d'une initiation qui va nous permettre de ressentir à nouveau, parce que pour elle, la symbolique des mains est avant tout un organe sentant. Donc quelque chose qui est du domaine de l'instinct, du sens, qui va avoir comme connexion à l'intuition et donc comme lien avec l'âme. C'est-à-dire que grâce aux mains, on peut avoir accès à l'âme. Bien entendu, les mains, c'est également la créativité. Et si on remplace l'intuition par la créativité, tout fonctionne également parce que forcément l'un va avec l'autre, comme on a pu le voir depuis le début de notre cheminement avec les 13 mères. Alors, le marché qui est fait entre le père et le diable est finalement, dans la vraie vie, un choix autodestructeur. C'est-à-dire que, eh bien, à un moment donné, nous, dans nos choix de vie, dans la création de nos vies par nos mains, on va faire un choix, deux choix, trois choix, plusieurs choix comme ça qui ne vont pas être du tout positifs pour notre âme, pour notre intuition, pour notre créativité. Mais à première vue, il ne va pas nous sembler ainsi que l'on agit mal, que l'on choisit mal. Peu à peu, comme ça, on va choisir plutôt le confort, donc plutôt une vie confortable face à une vie sauvage et créative, plusieurs fois jusqu'à la trahison finale. Et cette trahison finale, finalement, est absolument essentielle parce que c'est elle qui va être le moteur du développement du soi, c'est elle qui va être véritablement le tournant vers l'initiation. Donc, en même temps, il le fallait pour pouvoir avoir du mieux, il fallait continuer à s'enfoncer dans des choix autodestructeurs. Ce qu'il va se passer, c'est l'amputation. Donc, à force de miroiter une vie plus facile, plus confortable qu'une vie, eh bien, comme je le disais, sauvage ou créative, une vie basée sur l'alimentation et les soins de l'âme et de notre vie intuitive, eh bien, en tant que femme, on va faire de nombreux choix qui vont détruire peu à peu justement notre âme et ses forces vitales. Donc, des choix de facilité, des choix mauvais entre guillemets dans le sens bien et mal, c'est-à-dire bien dans le sens de la vérité, notre vérité avec un grand V comme on l'a vu, bien dans le sens qui va dans le sens de la volonté cosmique et négative, mauvais choix, donc qui trahissent notre vérité, qui trahissent la loi, la volonté divine, qui trahissent donc notre vérité. Et comme on peut le voir, je vous le disais, le diable ne va pas arriver immédiatement après le premier choix destructeur. On voit qu'il va se passer 3 ans. Donc il va continuer à se passer d'autres choses, de rester dans ce choix-là à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix qui fait tout balancer, on en est bien conscient. Mais au bout d'un moment, eh bien, on va se rendre compte que nous avons trop longtemps délaissé notre art, trop longtemps délaissé les besoins de notre âme, parce que voilà, nous étions absolument hypnotisés par une vie plus confortable, par une vie plus facile, ou tout simplement par des choix, non pas de facilité et de luxe, mais plutôt des choix que les autres nous demandaient de faire et qu'on a accepté. Et la jeune fille, va être sauvée plusieurs fois par elle-même parce que, n'ayant rien à perdre, elle va ressentir son instinct, elle va faire des choses très étranges qui appartiennent à des rituels religieux, de religions consacrées à la déesse, comme s'habiller en blanc, se laver, ou pleurer énormément, parce que pleurer, c'est ce qui soulage l'âme. Donc, par ce choix destructeur, et elle va se rendre compte longtemps après, 3 ans après, de ce qui est vraiment en jeu, et elle va commencer à renouer avec son instinct parce que elle est descendue très bas et que en étant arrivée dans cette phase peut-être si basse et si dépressive, on se recontacte avec notre instinct le plus ancien. Pour une femme, ça va être forcément la relation avec sa déesse intérieure. Alors, le diable ne va pas pouvoir la prendre ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Mais la troisième fois, eh bien, le père va la trahir encore plus et il va l'amputer. Donc la jeune fille va se retrouver totalement vulnérable et sans main, elle ne va plus pouvoir se réconforter soi-même, se guérir soi-même, parce que ce sont, comme on le disait, des organes qui sont reliés et à la fois avec le sens, le sentir, mais ce sont aussi des organes qui parlent, qui peuvent recevoir et donner, et qui peuvent guérir, qui peuvent protéger, et qui peuvent voir dans le sens intuition, intuitif. Donc à partir du moment où on se retrouve coupé de tout ça, de cette auto-guérison, de cette communication avec nos mains, de cette créativité, eh bien on va se rendre compte que les choses ne sont pas telles qu'elles semblent, telles qu'elles semblaient être. C'est-à-dire que les choix que l'on a faits, dont on n'avait absolument pas confiance qu'ils étaient autodestructeurs, en choisissant de négliger notre âme parce qu'on veut créer sa vie, on veut accéder à un bel emploi, une belle maison, et on laisse vraiment de côté tout le reste, toutes les petites choses qui font pétiller un petit peu la vie, mais on se focalise absolument sur les bonnes relations, sur le travail, etc. Eh bien, on se rend compte que maintenant, on n'a plus ces mains-là pour voir, on n'a plus ces mains-là pour créer selon notre propre vérité. Que petit à petit, en fait, on a perdu contact avec soi, avec soi-même, avec cette vérité-là. Mais pour autant, on n'a jamais perdu notre pouvoir. L'héroïne va passer dans une phase d'errance, c'est-à-dire de descente initiatique dans l'inconscient, parce que avec une âme qui a été tellement délaissée depuis tellement longtemps, on l'imagine véritablement affamée. Donc c'est en passant par l'inconscient que l'âme va être nourrie. Mais une femme dans la réalité qui est dans cet état-là, va continuer à vivre sa vie quasiment normalement. Elle rêvera peut-être un peu plus, dans le sens rêvasser la journée. Ou alors, ça peut être véritablement une dépression. En tout cas, ce qu'on appelle la descente va nous régénérer, va nous nourrir profondément et nous reconnecter avec notre âme. En faisant cela, en redonnant de l'importance à l'âme, eh bien, on va changer progressivement d'animus, d'un animus négatif qui pensait qu'à la vie sociale et à la vie confortable, on va passer à un animus roi qui va comprendre les besoins du monde souterrain, donc les besoins de l'âme, tout autant qu'il va comprendre les besoins du monde extérieur. Donc un roi qui va être plus dans l'équilibre, et c'est pour ça qu'il est tellement royal, tellement bon. Et du coup, la jeune fille va s'unir avec ce roi qui va faire véritablement partie d'elle, au point où, dans ce nouvel équilibre, avec cet animus à nouveau plus fort, eh bien, elle va avoir de nouvelles mains, mais des mains de fer. Parce que ce n'est pas fini, il va falloir à nouveau affronter le diable, et il va se pointer lorsque la reine va avoir un enfant. Et avoir un enfant, symboliquement, c'est avoir une idée, notamment un but dans la vie, un nouveau but qui n'était pas du tout celui que l'on avait au début de notre histoire, quand nous étions encore une jeune fille qui délaissait l'âme, mais à force de nourrir l'âme, tout d'un coup, on a de nouveaux projets de vie. Et le diable va forcément être attiré par cette créativité, parce qu'on avait dit que la créativité commençait par une vision. Donc, la reine est enceinte, le roi doit partir, c'est toujours comme ça dans les histoires. Il l'a protégée, il était un soutien, mais maintenant il doit s'en aller. Et la reine est enceinte, donc elle a cette vision, mais elle n'est pas encore manifestée. Et au moment où l'idée apparaît, le diable apparaît également, il va fausser les messages. Donc quand il apparaît, c'est la première petite action que l'on fait dans le sens de ce changement de vie. Et le diable, eh bien, c'est forcément tous les doutes que l'on va avoir, la procrastination également, toutes les résistances que l'on va mettre dans ce projet-là, dans cette création-là. Donc ça peut être de petites créations, ça peut être chaque tableau que l'on fait, ou alors ça peut être vraiment un projet de vie, un grand tournant dans notre vie, où tout d'un coup on va avoir des doutes, même si ce projet nous portait pendant des jours et des jours, nous passionnait, tout d'un coup à un moment donné on va se dire que finalement c'est peut-être pas du tout ce qu'il faut faire, qu'il y a beaucoup trop de risques, et qu'on ne sait pas si ça va nous correspondre sur le long terme. Et face à ça, on va continuer encore plus bas, encore plus profondément, à se tester, à se rencontrer et à se développer soi-même à l'intérieur, à donc se retrouver confronté à nos ombres par exemple. Et peu à peu, à force de patience, à force de devoir prouver nos forces, de devoir agir, eh bien, les mains de la jeune fille, nos mains, vont repousser pour de vrai cette fois-ci. Donc pour pouvoir mettre cet enfant idée au monde. Et une fois qu'on aura fait véritablement un long processus de développement personnel, notre roi va finir par nous retrouver, par nous rejoindre. Donc, peu importe les choix que l'on a faits, rien n'est jamais perdu, il est toujours temps pour nous de répondre à l'appel de l'âme et recommencer à la nourrir pour retrouver notre vérité. Il n'est jamais, jamais trop tard pour cela. Ce conte a été également interprété par Marie-Louise von Franz, qui était une des proches collaboratrices de Jung. Et elle assimilait ce conte à la difficulté de la femme à assumer ses propres dons créateurs, ses propres élans créateurs. Ce qui se passait au début, c'est que notre psyché, lorsqu'elle fait le mauvais choix, le choix autodestructeur, tombait dans la tentation. Même si la personne est la plus intelligente possible, qu'elle le sait, on vit toujours un moment difficile où on va tomber dans la malhonnêteté, dans la facilité ou dans un mauvais usage de notre intelligence, justement. Et en faisant des mauvaises choses, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que peu à peu, on va délaisser notre âme, comme on a dit, on va la perdre. Alors, si j'insiste sur cette notion-là, c'est parce que avant de faire d'enregistrer cet audio, j'ai tiré de multiples reprises la carte de la justice, qui est également la carte du karma, et qui nous dit que tout choix, tout acte comporte une conséquence et que nous sommes responsables de tout ce que l'on fait. Donc nous sommes responsables également de nos mauvais choix. Nous sommes responsables de tomber dans la facilité, nous sommes responsables de délaisser notre âme, nous sommes responsables de ne pas agir en direction de notre vision, de tomber dans la tentation, de tomber dans la résistance, et de ne pas agir dans ce sens tout simplement. Mais on l'a vu, on peut guérir, on peut transcender nos blessures, on peut transcender nos mauvais choix, on peut changer. Et puis finalement, toutes ces souffrances sont nécessaires, sont peut-être même essentielles, afin de nous permettre d'activer notre individuation, donc la réalisation de notre moi vers notre moi supérieur, et que les souffrances finalement activent ces processus-là intérieurs qui sont si nécessaires. Alors il y a également un autre conte de Clara Pinkola Estes dans son livre qui nous parle de créativité. Et ce conte s'appelle La Llorona. Donc il est beaucoup beaucoup plus court que le précédent, mais vous verrez que la sagesse est véritablement similaire. Alors je vais vous le lire très rapidement. Un riche hidalgo courtise une femme très belle, mais pauvre, et obtient ses faveurs. Elle lui donne 2 fils, sans qu'il daigne l'épouser. Un jour, il lui annonce qu'il rentre en Espagne pour s'y marier avec une femme riche, choisie par sa famille, et qu'il emmène ses fils avec lui. Véritablement folle de douleur, la jeune femme se comporte comme toutes celles qui se trouvent dans cet état, et hurle leur souffrance. Elle se griffe le visage, se jette sur lui, le lacère, se lacère. Puis elle prend avec elle ses 2 petits garçons et court vers la rivière dans laquelle elle les précipite. Les enfants se noient et la Llorona s'effondre sur la rive où elle meurt de chagrin. L'hidalgo rentre en Espagne et épouse la femme riche. L'âme de la Llorona monte au paradis. Là, on lui dit à la porte qu'elle peut entrer car elle a souffert, mais pas avant qu'elle ait récupéré l'âme des 2 enfants dans la rivière. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que la Llorona, la femme qui pleure, balaie la rive de ses longs cheveux, plonge ses longs doigts dans l'eau pour sonder le fond à la recherche de ses fils. L'auteur nous donne également d'autres versions du conte, et notamment une version moderne de pollution, c'est-à-dire que la Llorona va tomber amoureuse d'un riche propriétaire d'entreprise, d'usine, qui va en fait polluer la rivière dans laquelle elle va noyer ses garçons. Et en fait, le problème qui fait qu'elle n'arrive pas à retrouver les âmes de ses enfants, c'est que la rivière est tellement polluée qu'elle ne voit pas. Elle est trop souillée, trop boueuse, trop polluée pour pouvoir repérer les âmes de ses enfants. Ce conte nous parle de la rivière comme un conduit créatif. Et si l'on veut que notre création soit le plus proche de la vérité avec un grand V, de notre vision avec un grand V et de la volonté cosmique ou des idées dans lesquelles eh bien, on est plongé, eh bien, ce conduit doit être le plus pur possible. La rivière doit être la plus claire possible, la moins polluée. Et ce qui va polluer le conduit créatif, la rivière créative, eh bien, ça va être, comme dans le cas du diable avec la jeune fille sans main, ça va être les doutes, une mauvaise estime de soi, le fait de toujours remettre à plus tard les choses, bref, de résister à faire. Parce que la mise en action, on l'a vu dans notre partie il y a 2 mois consacrée au yang, c'est notre animus, donc la partie masculine de nous-mêmes qui va mettre en action, qui va véritablement manifester dans la réalité, eh bien, les idées que l'on a reçues, que la part féminine de notre être aura reçues. Donc c'est cet animus en question. Et ici on voit de nouveau un animus négatif, cet hidalgo qui profite d'une jeune fille sans l'épouser, qui va même polluer la rivière. Donc cet animus à nouveau négatif va permettre eh bien, de créer normalement, mais il va nous apprendre qu'il y a peut avoir une création positive et une création négative, comme il y a un animus positif et un animus négatif. Lorsque l'animus va faire mauvais usage des pouvoirs du conduit créatif, des pouvoirs de la rivière, lorsqu'il la pollue, c'est qu'il va faire mauvais usage du pouvoir créatif, du pouvoir de la manifestation. Parce que oui, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire, créer en faisant le bien ou créer en faisant le mal. Et on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile de créer en faisant le bien, c'est-à-dire de créer tout en gardant l'eau de la rivière claire et le conduit tout à fait pur. Et c'est notre défi quotidien, encore et encore. C'est le défi auquel nous sommes toutes et tous confrontés dans notre vie, cette force de garder cet animus positif, de continuer à faire des choix qui soient dans le bien, donc c'est-à-dire que le bien c'est relatif, mais le bien c'est dans le sens de la vérité, dans le sens de nos visions, dans le sens de notre âme. Et si jamais nous tombons dans le piège, dans la facilité, comme on disait, dans une vie qu'on nous fait miroiter de belles choses, mais qui finalement ne sont jamais celles qu'elles sont au final, parce que dans la jeune fille sans main, on voit bien qu'on pensait simplement céder un pommier, mais en fait on doit céder carrément notre fille, notre enfant. Donc apparemment ça a l'air facile, ça a l'air de pas coûter cher, et c'est tout le contraire. Et donc ça nous coûte très cher, et peu à peu notre animus comme ça va mal tourner. Il va être de plus en plus négatif, et peu à peu, eh bien, nous allons mener de plus en plus une existence dite malsaine, car eh bien, notre masculin intérieur va complètement se ficher que les choix qu'on fait, que la vie que l'on crée, soit intègre ou non. Alors notre animus va devenir alors une menace à la fois pour le monde, pour les autres, parce que du coup on va faire quelque chose qui n'est pas authentique, mais surtout, il va être une menace pour nous-mêmes, pour notre réalisation, pour notre bonheur tout simplement. Alors il va endommager par exemple encore et encore notre estime de soi, ou alors ce qu'il va faire de plus en plus, c'est bloquer notre créativité, c'est-à-dire nous couper les mains finalement. Et puis, ça peut aller jusqu'à nous faire souffrir physiquement avec des maladies, ça peut aller jusque-là. Quand on délaisse trop notre âme, eh bien, c'est le corps qui va nous dire de stopper, si ce n'est pas la vie qui va se charger de créer des événements pour nous stopper net et pour qu'on reprenne le cours des choses. Alors, à un moment donné, on va se retrouver coincé. Donc soit par la vie, soit par la maladie, et on ne va plus avoir d'autre choix que celui de nettoyer cette rivière polluée, ce conduit qui a accumulé les mauvais choix, pour finalement retrouver nos enfants, nos créations que nous avons délaissées, et ces enfants-là qui sont les enfants de la vérité, les créations, les visions réelles qui n'appartiennent qu'à nous, que nous avons commencé à donner naissance, mais qui se sont perdues dans une rivière trop polluée. Alors, ce que j'aime bien aussi avec cette auteure, c'est qu'elle va nous donner des petites astuces pour pouvoir éclaircir à nouveau l'eau. Donc ça se passe sur plusieurs pages que je vais vous lire. Et comme marque-page... J'avais justement mis la carte de la justice, la carte du karma, qui nous dit que c'est justement à force de faire des choix trop faciles ou inauthentiques, qui ne correspondent pas à notre vérité, on va faire venir par la vie la maladie ou ou des événements qui vont nous stopper pour reprendre véritablement notre travail de dépollution de l'eau. Et bien sûr, on a toujours notre libre arbitre, c'est-à-dire que même à ce moment-là, quand on est confronté, on peut choisir de dire non. Non, je veux continuer dans cette voie, ça me va, je veux continuer à manifester dans le sens-là. Et puis, il va se passer peut-être encore une ou deux fois, et au bout d'un moment, il ne va plus rien se passer. Parce que la vie veut bien nous aider plusieurs fois, elle va nous aider plein de fois. Mais elle va aussi prendre acte et avoir conséquence de nos choix. Donc si on dit non à chaque fois, la conséquence, ça va être qu'on ne va plus rien nous proposer. C'est comme quand, quand on nous invite à un apéritif et qu'on dit non 15 fois, les personnes, finalement, au bout d'un moment, ils vont arrêter de nous inviter, et bon bah c'est peut-être pas pour cette vie là, ça marche pas, bon bah qu'il expérimente ce qu'il a envie d'expérimenter. Mais en même temps, si à partir du moment où la personne va faire un choix différent, la vie il ne va pas bouder, elle va tout de suite se représenter, parce que tout acte responsable aura une conséquence positive également. Donc la manifestation, la créativité est véritablement lié avec la loi du karma. C'est extraordinaire. C'est aussi du coup lié avec notre intention de pourquoi on fait une chose. Donc si on veut créer un projet par exemple, eh bien quelles sont nos intentions là derrière? Est-ce que c'est pour manipuler, pour obtenir plus d'argent, ou c'est parce que c'est un appel de notre âme pour développer quelque chose qui est en nous et qui germe? Donc c'est véritablement très très intéressant de le voir encore ressurgir sous cette forme, sous cette carte de la justice, du karma, qui est beaucoup 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 sortie. Donc de nous rappeler que créer c'est très 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 bien, créer c'est lié eh bien à la destruction, même si c'est pas facile à comprendre. Mais créer, c'est également lié à cette loi cosmique auquel eh bien, nous sommes tous reliés. Très bien, reprenons là où nous en étions, sur eh bien, les petites astuces qui vont nous permettre de retrouver un conduit pur, c'est-à-dire de nous remettre en connexion avec notre vision ou notre vérité. Alors, pour commencer, accepter ce qui nourrit, pour entreprendre de nettoyer la rivière. Quand une femme décline les compliments sincères qu'elle reçoit sur sa vie créative, il est évident que la rivière a été contaminée. La pollution peut être minime, comme lorsqu'elle déclare négligemment « Oh, c'est très gentil à vous de me faire un pareil compliment !» ou massive, comme quand elle s'exclame « Oh, ce vieux machin !» ou « Tu as perdu la tête !» ou carrément sur la défensive « Évidemment que je suis formidable, tu ne t'en étais pas aperçu !» Ce sont autant de signes que l'animus est blessé. Le flot des bonnes choses coule dans cette femme, mais il est immédiatement empoisonné. Pour inverser le processus, il lui faut s'exercer à accepter le compliment, à le savourer, à combattre l'animus malfaisant qui veut s'affirmer à son auteur. C'est ce que tu crois, mais tu ignores les âneries qu'elle a faites, et si tu voyais comme elle est nulle, et ainsi de suite. Les complexes négatifs sont particulièrement attirés par les idées les plus juteuses, les plus merveilleuses, les plus révolutionnaires, par les formes les plus exubérantes de créativité. Il ne faut donc pas y aller par quatre chemins et mettre au repos le vieil animus, l'envoyer aux archives de la psyché, dans cette couche où nous classons les impulsions et les catalyseurs qui ont perdu leur substance. Là, ils deviennent des objets artisanaux, plus que des acteurs ou des affects, tandis qu'on en appelle un animus qui va agir de manière plus positive. Également, réagissez. Ainsi nettoie-t-on la rivière. Les loups mènent une existence extraordinairement créatrice. Ils effectuent chaque jour des dizaines de choix, estiment une distance, se concentrent sur leur poids, calculent les chances, saisissent les occasions, réagissent avec force pour atteindre leur but. Leur capacité qu'ils manifestent pour découvrir ce qui est caché, pour concrétiser les intentions, pour focaliser sur l'issue souhaitée et pour agir en fonction de cet objectif, sont les caractéristiques exactes requises chez l'être humain pour mener sa créativité à son terme. Pour créer, il faut être capable de réagir. La créativité, c'est la capacité de réagir à tout ce qui nous entoure, de choisir parmi les centaines de pensées, de sentiments, d'actions et de réactions qui naissent en nous et de les rassembler en une réponse, une expression, un message unique qui va transmettre un sens, la passion, l'esprit du moment. En ce sens, la perte du milieu dans lequel nous créons nous conduit à être limités à un seul choix, privés de sentiments et de pensées, poussés à les supprimer ou les censurer. On n'agit pas, on dit rien, on ne fait rien, on n'existe pas. Soyez sauvage, ainsi nettoie-t-on la rivière. Sous sa forme originelle, la rivière n'arrive pas toute polluée. C'est nous qui nous chargeons de cela. Elle ne s'assèche pas, c'est nous qui en bloquons le cours. Si nous voulons lui rendre sa liberté, il nous faut libérer notre vie idéative, n'y mettre aucun barrage, ne rien censurer. Ainsi va la vie créatrice. Elle est faite d'un divin paradoxe. C'est un processus purement interne. Pour créer, il faut vouloir être complètement stupide, siéger sur un trône porté par un baudet et avoir des rubis qui nous jaillissent de la bouche. Alors la rivière coulera. Nous pourrons nous tenir au beau milieu de courant en tendant nos tabliers pour en récolter un maximum. Elle nous conseille également de nous y mettre, donc de nous présenter à notre travail, quoi qu'il nous en coûte, tous les jours si nécessaire, pour lutter contre la résistance qui est, vous le rappelez, notre diable, notre pollution. Elle nous dit également de protéger notre temps car il est précieux. Donc de savoir s'isoler, par exemple, pour ne pas être embêté par des amis, même de très très bonne intention. Elle dit également qu'il faut nous obstiner, parce que ce chemin est également un chemin d'endurance. Il faut que notre animus soit exercé encore et encore. Cette loi, ce karma, cette justice nous teste tout au long de notre vie. Donc même si on est engagé dans un chemin intègre, il va se présenter encore et encore des choix. Et on a vu que chacun de ces choix n'était jamais les plus faciles. Et donc il va falloir s'obstiner dans cette voie. Elle nous dit également de protéger notre vie créatrice, de ne laisser nul homme, nulle femme, aucune pensée, aucun compagnon, aucun ami, nulle religion, aucune activité personnelle, professionnelle, pardon, aucune voix grincheuse nous conduire à la famine. Donc à ne plus alimenter notre âme, si nécessaire, montrer les dents. Donc savoir poser des limites, encore une fois. Elle nous conseille de réaliser notre œuvre avec soin, avec chaleur, en y mettant toute notre énergie, en exigeant la qualité. Et elle nous dit forcément d'alimenter notre vie créatrice. Bien que les aliments convenant à l'âme soient nombreux, la plupart entrent dans l'une des quatre catégories fondamentales de la femme sauvage: le temps, l'appartenance, la passion, la souveraineté. Faites-en des stocks, ils gardent pur l'eau de la rivière. Une fois débarrassée des impuretés, la rivière peut couler librement. Les produits de la créativité d'une femme augmentent et continuent par la suite à croître et à décroître selon un rythme naturel, comme un rythme de rivière en fonction des saisons. Si une contamination intervient naturellement, elle sera efficacement neutralisée. La rivière redeviendra notre système nutritif, où nous pouvons nous abreuver sans crainte, en toute confiance, et calmer l'âme tourmentée de la Llorona, qui va guérir ses enfants. nous pouvons arrêter le processus polluant de l'usine, asseoir un nouvel animus. Nous pouvons vivre comme nous l'entendons, près de la rivière, nos nombreux bébés dans les bras, en leur montrant leur reflet dans l'eau claire, si claire. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin, et je vous souhaite de belles, belles créations, bien claires, bien intègres, et courage, parce que nous l'avons vu, c'est loin d'être un chemin de facilité, mais voilà, ça vaut le coup. À très vite pour la suite de notre atelier.